à vous, les Burgiens. Votre magazine d'infos 100% local. Interview, reportage, suivez-nous, on est les seuls à vous y emmener. Bonjour à toutes et à tous. Vannerie, menuiserie, électricité ou encore ferronnerie. Pendant un an, une vingtaine de jeunes s'est initiée à des métiers de l'artisanat. L'éveil au métier de lin vient de souffler sa première bougie. Avis aux intéressés, la prochaine édition se prépare. La coordinatrice, le vice-président de l'association, bénévole électricien, et Florin, l'un des jeunes de cette première promotion, sont en direct dans nos studios. On les retrouve dans quelques secondes. Reportage à Pérona pour la dernière rencontre du challenge Foot pour tous, organisé par le comité départemental de sport adapté et le district de l'Ain de football, au programme des rires et beaucoup de plaisir. La traditionnelle fête de la Saint-Jean-Vaine, c'est le 28 juin. Des jeunes du quartier y participent, rencontrent avec un chanteur et un groupe de breakdance. Et quelques infos en bref à la fin de ce magazine. Marie-Hélène Espel-Vaucheret, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coordinatrice de l'éveil au métier de l'Ain et développeur apprentissage à la Chambre de métiers et de l'artisanat de l'Ain. Alfred Laurent, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes bénévole électricien et vice-président de l'association. À vos côtés, un troisième invité, Florin, bonjour.
Bonjour.
Tu es en quatrième et tu as fait partie de cette vingtaine de jeunes qui a découvert des métiers de l'artisanat.
J'ai choisi la créativité.
Et moi, la qualité à long terme.
Moi, j'aime bien quand ça sent trop bon.
Et moi, quand c'est fabriqué près de chez moi.
Nous avons tous une bonne raison de choisir l'artisanat. L'artisanat, première entreprise de France.
Marie-Hélène Espel-Vaucheret, l'artisanat, première entreprise de France, expliquez-nous.
C'est vrai que c'est important de le signaler parce qu'on pense qu'en considérant des petites entreprises qui sont moins représentatives du tissu économique, alors qu'en finalité, au vu du nombre d'artisans, nous dans l'Ain, on a pratiquement 14 000 entreprises artisanales, vues dans tous les départements, c'est vrai que ça représente une grande force de production et économique au niveau de la France entière. Donc c'est vraiment un secteur et des valeurs à transmettre aux jeunes et à valoriser.
L'artisanat première entreprise de France, mais qui peine à recruter. Alors, je suis tombée, par exemple, sur cet article de Ouest France, publié en avril dernier, qui met en avant le manque de candidats dans les formations. Est-ce que c'est le cas dans l'Ain, Marie-Hélène Espel-Vaucheret?
Alors, c'est vrai qu'en tant que développeur apprentissage, je me déplace sur tout le département pour rencontrer les artisans et les sensibiliser à prendre des apprentis. On est un département qui est assez diversifié et alors il y a des métiers où effectivement il y a plus de mal à trouver des jeunes, comme bon, tout le domaine de la restauration, la cuisine, le service sont des métiers qui recrutent énormément. On a des métiers dans le bâtiment, comme le carrelage aussi, qui sont nécessiteux, ou des métiers dans la métallurgie, comme l'usinage et puis la plasturgie. Donc il y a des métiers qui sont porteurs d'emplois qui nécessiteraient effectivement plus de jeunes dans ces professions-là.
Et donc, c'est ce qui a poussé la Chambre de métiers de l'artisanat de l'Ain à lancer l'éveil au métier?
Alors, ce qui a surtout poussé M. Vincent Gault, qui est président de la Chambre de métiers, à créer l'association l'éveil au métier de l'Ain, c'est surtout pour valoriser ces métiers qui parfois ont une mauvaise image, finalement, auprès de du public, hein, que ce soit les familles, les enseignants, et puis qui ait une mauvaise représentation des métiers. Donc, ça, c'est la première fois qu'il y a une action qui touche autant des enfants du CM2 à la 3e, donc des enfants de 10 à 15 ans, et pour leur apprendre le geste, pour apprendre la mixité des métiers, pour montrer qu'il n'y a pas de stéréotypes, quoi, qu'on peut tout faire dès qu'on a l'envie et la passion.
Donc c'est un concept qui existe déjà dans d'autres départements. Comment il s'est mis en place dans l'Ain?
Alors, il s'est mis en place parce que dans d'autres départements, c'est une action qui peut s'appeler sous forme l'outil en main ou pas. En tous les cas, nous, on a copié l'exemple de Lyon, qui s'appelle l'éveil au métier de Lyon Métropole, qui se sont dissociés de cette organisation pour créer leur propre unité. Et on s'est inspiré de leur organisation pour faire de même chez nous. Et c'est vrai que c'est un grand succès. Enfin, moi, je suis vraiment heureuse de participer à ce développement de cette association qui est vraiment formidable, qui fait du bien autant aux bénévoles qu'aux jeunes et qui crée ce lien intergénérationnel. également, en plus de la découverte des métiers.
L'association a donc été créée il y a un an. Tous ceux qui y participent sont bénévoles. Il y a une majorité de retraités de l'artisanat. Alfred Laurent, vous êtes le vice-président de l'association Bénévoles électriciens. Comment êtes-vous tombé dans ce projet ?
Oui, j'étais à mon compte artisan électricien pendant 30 ans. Donc je suis à la retraite depuis quelques années et quand on m'a demandé de participer à cette association en présentant les métiers aux jeunes, parce que bon, moi il m'a toujours semblé que quand on est à l'école, on ne nous parle jamais des métiers de l'artisanat, du bâtiment, de l'hôtellerie, tout ça. On dit aux jeunes, il faut passer le bac, il faut bosser, il faut passer le bac. Mais bon, il y a des métiers où on gagne très bien sa vie. Et puis, moi, je suis vraiment enchanté de voir ces jeunes qui prennent le tournevis dans mon métier, par exemple, qui prennent la pince et le tournevis et qui branchent des interrupteurs et des prises. Et puis, il semblerait que ça leur plaît bien. Et moi, je suis vraiment heureux que cette première année là, ce soit si bien passé. Tout le monde est content, les parents, les enfants, les bénévoles. Voilà, moi je suis heureux d'être avec ces jeunes qui sont super sympas en plus. Ils nous disent bien bonjour, ils sont sympas, il y a une bonne ambiance. Moi, ça me plaît vraiment.
Que du positif.
Que du positif.
Et pour vous, donc, en quelques mots, comment êtes-vous devenu électricien ?
Ah, vous savez, moi je suis rentré en apprentissage en 1959. Et on choisissait pas trop son métier. Moi j'étais en secondaire, j'étais dans mon village, on n'allait pas en secondaire, moi j'étais le premier. Donc à 14 ans, mon père m'a dit il faut apprendre un métier. Bon, parce qu'on poursuivait pas les études à cette époque. Donc je suis rentré dans une entreprise à Châtillon-sur-Chalaronne pour faire mon apprentissage. Ça s'est très bien passé et après j'ai continué. J'ai été salarié encore une dizaine d'années, puis je me suis mis à mon compte, je me suis installé. Je trouve que j'ai réussi ma vie professionnelle. J'ai retrouvé des collègues qui étaient au collège avec moi à cette époque-là, qui ont fini qui ont fini directeur. Et ils m'ont dit mais tu t'es bien débrouillé, t'étais artisan électricien, tu t'es bien débrouillé. Moi je crois qu'ils ont raison. Voilà.
Vous êtes fier de.
Oui, je suis fier de ce que j'ai fait.
Votre métier au début. Bah oui. Maintenant, vous ne regrettez pas.
Ah non, non, absolument pas. Non, non. Voilà, alors s'il peut susciter l'envie de faire électricien aux petits jeunes qui viennent nous voir, je suis heureux. D'ailleurs, il y en a un qui s'est inscrit, je crois, dans une école pour faire électricien. Donc voilà.
Florin, donc Alfred Laurent dit qu'à l'école, on ne parle pas du tout, on ne présente pas les métiers de l'artisanat. Est-ce que c'est le cas pour toi ? Donc tu es en quatrième, je rappelle.
Voilà, je suis en quatrième à Saint-Pierre. Et non, je trouve qu'on ne parle pas tellement des métiers.
De l'artisanat ?
Voilà. En début d'année, on avait fait vers Inter-Expo. On était allé voir quelques métiers, mais c'était plutôt de l'amusement. Et donc moi je pense que je me dirigerai plutôt vers un bac pro, mais je ne sais pas encore trop
ce que c'est comme bac pro. Et quelle image tu avais des métiers de l'artisanat avant de participer à l'éveil aux métiers?
Je pensais que c'était surtout être à son compte et plutôt être pas dans une trop grosse entreprise et surtout être tout seul et pas trop être en entreprise, quoi. C'était pas pareil qu'en entreprise où on a un directeur, alors que là, c'est nous le directeur.
On est son propre patron et puis on peut travailler à plusieurs, mais Marie-Hélène Espel-Vaucheret, on peut être seul.
Ah, complètement, oui. Il y a beaucoup, enfin, après la proportion, je ne la connais pas exactement, mais il y a énormément d'artisans qui travaillent en solitaire.
Et qui apprécient travailler en solitaire.
Oui, alors c'est là où justement, moi, mon travail aussi, c'est de sensibiliser à développer l'apprentissage pour aider aussi parfois des entreprises qui finalement se sensibilisent après à prendre un jeune parce qu'elles ont envie justement, par lassitude de travailler seules, d'avoir aussi de la jeunesse, d'avoir de la compagnie et puis de développer leurs activités. Donc c'est tout un état, un développement un petit peu de leur activité, mais une sensibilisation qui se fait par rapport à ça.
Et puis c'est transmettre ensuite pour faire perdurer l'entreprise aussi.
Ah, complètement. Effectivement, le principe de former des jeunes, c'est pour faire perdurer et l'entreprise et les métiers aussi, qui malheureusement pour certains ont peut-être tendance à se perdre complètement.
Parce que pour certains, c'était souvent, ça restait dans la famille quand on faisait un métier de l'artisanat et maintenant, c'est pas forcément le cas.
Non, c'est sûr qu'il y a eu sûrement beaucoup de transmission familiale, mais alors moi ce que je vois du coup vraiment sur le terrain, et ça c'est vraiment à noter, c'est qu'il y a beaucoup de reconversions professionnelles, des personnes à 40, à 50 ans, voire plus, suite à des licenciements ou par choix personnel, qui vont décider de se former et de repasser un CAP en boulangerie, en fleuriste, en plomberie, pour après pouvoir créer son entreprise et être à son propre chef, quoi, être à son compte. Et ça c'est vraiment quelque chose de nouveau, et on sent vraiment cette impulsion de la personne qui veut avoir son propre bébé, entre guillemets.
Qui veut être son propre patron.
Ouais.
C'est souvent un peu l'argument qui est mis en avant. Soit aussi des personnes qui ont fait des professions où ça demandait plus de réflexion et qui ont envie de faire quelque chose de leurs mains.
Voilà, il y a ça aussi, il y a le sentiment aussi de réaliser quelque chose de concret qu'on peut voir directement. On voit la qualité du travail qui est réalisé, hein, quand on est électricien, carreleur, vanier, etc. On voit le travail fini, quoi. Contrairement peut-être à d'autres professions, il faut attendre 6 mois pour voir si le résultat est qualitatif ou pas.
Florin, pourquoi tu as voulu participer à l'éveil au métier ?
Alors, j'ai voulu participer à l'éveil au métier pour apprendre de nouveaux métiers et puis pour voir un peu comment ça se déroule. Par exemple, mon premier métier que j'ai fait, donc ça a été tir au sort. J'avais pas vraiment envie de le faire en premier métier, mais je suis tombée sur la coiffure. Et donc ça m'a pas trop plu. Et puis au final, j'ai appris pas mal de choses.
T'as appris quoi par exemple ?
J'ai appris à faire des tresses plaquées, des tresses, une coupe au carré court, une coupe au carré long.
Donc je peux très bien te demander de me faire une coupe maintenant.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça.
Oui, donc en fait, tu disais que tu as tiré au sort, et donc c'est ça une particularité, c'est que les jeunes tirent au sort les différents métiers proposés, parce qu'on peut se douter que pour certains, ils vont peut-être pas les choisir, vu que tu le disais, Florin, la coiffure, c'était pas ce que tu aurais forcément choisi, Marie-Hélène Espel-Vaucheret.
Alors, il y avait une dizaine de métiers proposés. L'an prochain, on aura 2 métiers nouveaux avec la mécanique et la photographie. Sur ces métiers, en fait, on fait moitié-moitié. On fait une partie où les jeunes décident du métier qu'ils veulent faire, et puis une autre, on veut faire c'est vraiment une volonté de faire un tirage au sort pour que justement, il y ait cette ouverture d'esprit. Parce que c'est vrai que, et Florin, c'est bien qu'il en parle, parce que dès le premier jour, sa tête, quand il a vu coiffure, ouf, ça s'est assombri. Et puis 2 heures après, quand je lui dis « Florin, tu reviens ?», il me dit « Bien sûr !» Et il avait la banane complète. Alors, je trouve que ça, c'est une vraie réalité. Et puis du coup, c'est pareil, on va avoir des jeunes filles qui vont faire de l'électricité, de la maçonnerie, qui au départ n'y allaient pas forcément. Donc toute cette ouverture d'esprit est formidable. Et c'est là-dessus où vraiment l'éveil au métier est merveilleuse, parce qu'on enlève ces clivages de mixité de métiers. Enfin, justement, on ouvre à la mixité des métiers. Tous les âges sont confrontés, quel que soit le niveau. Il y a tous des aptitudes. Et puis surtout, cette curiosité. Donc les jeunes qui doivent venir, il faut qu'ils soient curieux, parce qu'ils seront effectivement amenés à découvrir d'autres métiers. Mais il y a toute cette relation et cette affectivité du bénévole vis-à-vis du jeune pour l'accompagner dans sa découverte, qui fait que les jeunes, ils sont hyper heureux. Là, actuellement, on a 2 jeunes filles qui sont en maçonnerie, mais elles sont ravies, quoi.
Donc, Florin, tu étais à la Chambre de métier de l'artisanat pour ces ateliers tous les mercredis, sauf pendant les vacances, de 14h à 16h30. Concrètement, tu faisais quoi ?
On apprenait le métier, forcément. Et puis, on discutait avec... les retraités ou pas. On apprenait surtout à apprendre le métier, ils nous montraient comment on faisait. On apprenait vraiment comment faire. Ouais.
Est-ce que tu as testé l'électricité ?
Oui, oui, oui.
Alors raconte-nous.
En deuxième métier, ouais, j'ai fait après coiffure, ouais. J'ai fait donc c'était sur un mur. J'ai installé des interrupteurs. J'ai vu les fils comment ils étaient. Je l'avais vu déjà un peu au collège, mais en miniature. Et donc là, je l'ai vu en grand, quoi, comme sur une maison, quoi. Il y avait l'interdifférentiel, il y avait des interrupteurs, des prises, il y avait des lampes, il y avait... Après, on a aussi démonté je sais plus ce que c'était, mais on a démonté plusieurs choses pour voir comment c'était fait dedans et pour des fois essayer de le réparer.
Alfred Laurent, donc oui. C'est vous qui avez initié ces jeunes au métier d'électricien.
Oui, oui.
Vous transmettez quoi alors, comme savoir-faire?
Ah, mais on leur explique, on fait des schémas, on leur explique comment une lampe fonctionne, un va-et-vient, une minuterie, un détecteur de mouvement. On leur explique avec un schéma comment ça fonctionne, à quoi les couleurs de fil, le bleu c'est neutre, le vert jaune c'est la terre, et puis après on leur fait brancher, on fait les essais. Alors s'ils se sont trompés, ça marche pas, on recommence, mais ils sont très très intéressés. Moi ça m'a bien plu, c'est une année formidable. Alors moi je me suis fait plaisir.
Transmettre aux plus jeunes, c'était une première pour vous?
C'est une première. Et moi j'ai trouvé une ambiance. Quand ils arrivent, ils sont les enfants, ils sont souriants, ils viennent nous faire la bise. Moi ça m'a épaté, mais alors j'en revenais pas, moi.
Et vous, moi,
j'ai passé une année
des...
sans. Alors, formidable, oui.
Vous aviez pris des apprentis, des plus jeunes pendant
non,
que vous étiez
non,
en exercice
pas moi, Non, je ne pouvais jamais. Pas, parce que je travaillais seul et je faisais beaucoup de dépannage, entretien de boutique, d'usine, de supermarché. Donc, moi, j'étais un peu spécialisé dans cette. Dans cette activité, donc c'était pas facile de prendre un apprenti. Par contre, j'ai beaucoup de collègues qui avaient des apprentis et qui ont très bien réussi, et il y en a qui ont racheté l'entreprise, et ça se passe très très bien. Voilà.
Florin, qu'est-ce qui t'a marqué pendant cette année?
La sympathie des gens, puis l'ambiance, il y a toujours une très bonne ambiance, c'est jamais tristouné. Et puis,
suis allée, c'est très vivant, c'est une vraie fourmilière. Donc c'est un espace de 150 mètres carrés. Il faut imaginer avec différents ateliers qui se déroulent tous en même temps.
Il y a quand même de l'espace. Hein, et...
Oui, il y a de l'espace, oui, 150 oui. mètres carrés, c'est grand.
Et puis il y a différents métiers, donc c'est très diversifié. Donc on peut tester plusieurs métiers.
Et il y a le goûter.
Oui, c'est ça.
Marie-Hélène Espel-Vaucheret?
Oui, je voudrais juste compléter, comme en plus les jeunes restent 5 séances dans chaque métier, donc ils ont l'occasion de réaliser une pièce, une œuvre dans chacun des métiers, et qu'ils ramèneront même chez eux. Alors c'est vrai que l'électricité, ça a été plus des montages sur des panneaux, donc ça a été sur place, comme la maçonnerie, mais par contre en ferronnerie, en vannerie, même en électronique, ouais. Ils ont fait des petits montages. Je te laisse si tu veux.
T'as ramené quoi alors, Florin?
En coiffure, on a ramené une tête c'était
une tête malléable, hein, je me permets. Mais
de coiffure avec les cheveux.
Voilà, ouais.
Ok.
Après, je fais de l'électronique, donc j'ai ramené un piano électrique, j'ai ramené une petite sonnette, enfin plein de petites choses comme ça. Après, j'ai fait ferronnerie, on a fait un oiseau en métal. Et après, j'ai fait un porte-rangement pour les feuilles ou les lettres. Donc j'en ai offert un aussi
à Marie-Hélène.
Cadeau que j'ai beaucoup apprécié. Voilà. J'ai trouvé sympathique de sa part.
Donc elle l'a mis dans son bureau. Et voilà.
Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as fabriqué ces objets à la fin?
C'était de la satisfaction parce que je ne pensais pas réussir à aboutir à mon projet. Et puis en même temps avoir appris à dire que c'est moi qui l'ai fait et que c'est quand même sympa de le ramener chez soi, quoi.
Le partager avec sa famille.
Voilà, c'est ça, oui. Et puis montrer notre production à notre entourage, à notre famille.
Est-ce que tu es plus contente de ramener ce que tu as fait à l'éveil au métier ou de ramener une bonne note?
Bah, je pense que je suis plus... Parce que moi, je suis plutôt manuel. Je répare des vélos, je répare pas mal de choses, je bricole. Et donc, oui, je... enfin, après, c'est complètement différent parce qu'il y en a un où c'est beaucoup de... pas mal de travail quand c'est une évaluation, mais après, c'est...
C'est de la théorie.
Voilà, après, ouais.
Donc, là, c'est terminé cette année.
C'est ça.
Et alors, tu disais bac pro.
Ouais, je pense après la troisième, je vais faire un bac pro, je sais pas trop, soit dans la mécanique, soit... bah là, je vais faire un stage dans un magasin de moto, là, bientôt. Et du coup, je vais voir comment ça se passe, et puis voilà.
Donc toi, tu t'es intéressée par la mécanique et
ouais.
tu aimerais donc travailler dans ce domaine.
Mmh. Et puis après, je vais faire un autre stage début juillet à ACE, à Bourg-en-Bresse, près de Leclerc. C'est dans un magasin, dans un magasin haute pression. Pour par exemple réparer des karchers, des nettoyeurs pour nettoyer je sais pas une terrasse ou des
donc
trucs comme ça.
Donc ça c'est toi qui as décidé de faire ces stages.
Ouais, c'est ça, ouais.
Eh bien c'est plutôt prometteur.
Oui, je profite, je complète ce que Florin fait. Tout jeune qui est en quatrième, donc qui est collégien, étudiant de la quatrième jusqu'à supérieure, peut faire des stages pendant les vacances scolaires et la convention de stage se met en place par la chambre de métier. Donc là, super, hein, Florin, parce qu'il n'y a rien de tel pour découvrir un métier concrètement et voir si ça peut plaire.
T'as pas obligé d'attendre le stage de troisième.
Donc j'en profite, je rebondis. S'il y a des personnes qui veulent, des jeunes qui veulent faire de 14 ans, enfin du niveau quatrième à bac supérieur, veulent faire des stages en entreprise, les conventions de stage avec nous, la chambre de métier.
Donc, la chambre des métiers pour demander des conventions. Et donc, il va y avoir la deuxième session de l'éveil aux métiers qui va commencer à la rentrée. Rapidement, c'est pour qui ? Donc, on a dit, on rappelle.
Des jeunes, donc, du niveau de CM2 à la 3e. Donc, ça fait environ des enfants de 10 à 15 ans. Mais c'est vraiment les niveaux scolaires CM2, 3e. Des jeunes qui vont faire une petite lettre de motivation, parce que cette année, tous les jeunes seront, il n'y a pas eu d'abandon, qu'on voit vraiment leur motivation et leur intérêt à venir, parce que les bénévoles viennent vraiment de tout le département, faut tenir compte de ça aussi. Donc la volonté de venir tous les mercredis après-midi, de s'engager sur l'année, et puis ça démarrera fin septembre jusqu'à début juin, tous les mercredis après-midi hors vacances scolaires. Et il y aura donc 12 métiers, donc 6 à découvrir, puisqu'ils ne découvriront pas la totalité, c'est par séquence de 5 ou 6 mercredis dans chaque métier. Donc esprit ouvert, curieux, volontaire, et c'est vrai, je le confirme aussi, il y a une ambiance très sympathique où on voit que tout le monde a plaisir à venir. Donc, et moi personnellement, j'ai plaisir aussi à coordonner cette action. Donc, voilà.
Et ça coûte combien si on veut y participer ?
Alors le coût annuel est de 150 € sur l'année, en sachant donc que les enfants repartent avec les objets qu'ils auront fabriqués. Là-dessus, on est référencé par la CAF, donc les familles dont le quotient familial, je crois, est en dessous de 750, peuvent bénéficier de l'aide au temps loisir de 50 €. Et en plus aussi, notre association est référencée sur le chèque jeune du département. Donc il peut y avoir une déduction, je crois, de 10 € de 2 fois 5 euros. Voilà.
Si ah,
il est possible, excusez-moi, oui. De payer en trois fois. Non, c'est moi qui aussi, je fais tous les arrangements possibles pour mettre à l'aise les familles. Et on a 20 places de disponibles pour la rentrée prochaine.
Et donc possible de payer en trois fois. Ouais. Donc si vous êtes intéressé, le mieux, c'est de rencontrer des jeunes de la première promotion et des bénévoles. Et ça tombe bien, vu que la journée porte ouverte, c'est ce mercredi le 19 juin à 14h30. Qu'est-ce qui est prévu ?
En fait, moi, c'est assez libre. J'accueille toutes les familles qui viennent dans le hall de la chambre de métier. Puis après, je les emmène dans cette salle, cette petite fourmilière où tout le monde œuvre au travail. Et je laisse libre aux jeunes, aux parents de discuter, de rencontrer. Et c'est un échange, en fait, avec tous les métiers. Puis ça permet de voir concrètement vraiment ce que c'est. On en a déjà fait une au mois de mai. Et alors, j'ai déjà eu 5 inscriptions. Et croyez-moi, les jeunes, ça leur donne vraiment envie quand on voit et l'ambiance et le travail qu'on va réaliser. Donc, vous êtes tous les bienvenus. C'est mercredi après-midi.
Florin, pour terminer, en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais à des jeunes qui nous écoutent ?
Moi, je leur conseille vraiment de tester, parce que c'est vraiment, même intellectuellement, même ceux qui sont forts intellectuellement, c'est quand même sympa, parce qu'ils peuvent se... Ou même ceux qui savent pas trop ce qu'ils veulent faire, et ben ils peuvent venir, et puis venir voir justement le 19 juin. Et puis...
Tu seras présent ?
Oui.
Pour venir te voir, voilà, ouais. Vous demandez Florent.
Ouais. Et puis... et puis ils pourront tester plusieurs métiers, voir ce qui leur plaît ou ce qui leur plaît moins.
Marie-Hélène Espel-Vaucheret, Alfred Laurent Laurie. Et Florin, merci. Marie Espel-Vaucheret, vous êtes la coordinatrice de l'éveil au métier de l'Ain. Alfred Laurent, bénévole, électricien et vice-président de l'association. Et Florin, tu as fait partie de la première promotion.
Radio B.
Alors moi je suis éducateur sportif à l'IME Dynamo, donc ça se trouve à Hauteville, qu'on accueille des jeunes entre 11 et 20 ans, qui sont déficients mentaux légers à modérés. Et donc on participe à ces journées sport adaptées dans le cadre de ce qui est mis en place par le comité. Ça permet aux jeunes de soulager une journée où ils ont souvent de la classe ou de l'atelier, mais aussi de préparer une rencontre sportive et d'échanger avec les autres établissements du département autour d'un sport. Aujourd'hui, c'est le foot, mais donc tout au long de l'année, on a fait ça autour du basket, du handball, de sport individuel. Et à chaque fois, c'est une réussite.
Restez à l'écoute du 90 FM. On se retrouve dans quelques minutes.
Si je peux vous donner un conseil, bouchez-vous tous bien les oreilles. Et pour les tympans plus sensibles, courez le plus loin possible dans n'importe quelle direction. Tant pis pour ceux qui sont restés, vous risquez d'être contaminés par les paroles affligeantes, la mélodie avilissante du refrain de cette chanson. Sors de ma tête, sors de ma tête, sors de ma tête, maudite mélodie qui m'entête. Sors de ma tête, sors de ma tête, sors de ma tête, maudite mélodie qui m'entête. Sors de ma tête, sors de ma tête, sors de ma tête, maudite mélodie qui m'entête. Sors de ma tête, sors de ma tête, sors de ma tête, maudite mélodie qui m'entête. Si vous saviez comme j'en ai marre, ma vie est devenue un cauchemar. J'ai dans la tête 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 7 maudite rengaine qui tourne en rond. Avant que l'on soit des millions, abêlez ça comme des moutons. Boycottons ce refrain vorace qui se propage comme un virus en ne chantant pas à l'unisson.
Sors de ma tête, sors de ma tête, sors de ma tête, maudite mélodie qui m'entête. Sors de ma tête, sors de ma tête, sors de ma tête, maudite mélodie qui m'entête. Sors de ma tête, sors de ma tête, sors de ma tête, maudite mélodie qui m'entête. Sors de ma tête, sors de ma tête, sors de ma tête,
maudite mélodie qui m'entête.
Célestin sur Radio B avec Sors de ma tête. Le chanteur et son contrebassiste se produiront pour les apéros dans la cour à la cave à musique à Mâcon. C'est le jeudi 27 juin à 19h30, entrée à prix libre. À vous les Burgiens sur Radio B 90 FM. Environ 70 jeunes sur les terrains de foot du stade de Pérona. La rencontre finale du Challenge Foot pour tous s'est déroulée il y a quelques jours. Cinquième et dernière journée de ce challenge qui a réuni des élèves d'établissements spécialisés du département, Belley, Oyonnax ou encore Bourg. Des rencontres de football à 7 réparties sur la saison. Ce challenge est organisé depuis plusieurs années par le comité départemental du sport adapté de l'Ain en partenariat avec le district de l'Ain de football. Le FBBP 01 était le parrain de cette finale. Une finale qui n'en avait que le nom. Les joueurs et joueuses ont tous été récompensés.
Alors moi je suis éducateur sportif à l'IME Dynamo, donc ça se trouve à Hauteville, qu'on accueille des jeunes entre 11 et 20 ans, qui sont déficients mentaux légers à modérés. Et donc on participe à ces journées sport adaptées dans le cadre de ce qui est mis en place par le comité. Ça permet aux jeunes de soulager une journée où ils ont souvent de la classe ou de l'atelier, mais aussi de préparer une rencontre sportive et d'échanger avec les autres établissements du département autour d'un sport. Aujourd'hui, c'est le foot, mais donc tout au long de l'année, on a fait ça autour du basket, du handball, de sport individuel. Et à chaque fois, c'est une réussite. Nous, on change souvent les jeunes selon l'activité, puis pour que tout le monde puisse échanger avec les autres établissements. Et là, au foot, on a essayé de garder une certaine continuité pour le fameux challenge qu'il y avait dans le département. Mais moi, c'est ma première année que je le fais et c'est des super journées, autant pour les jeunes que pour nous, c'est vraiment sympa. Ouais. C'est autre chose, on voit autre chose, les jeunes on les découvre autrement, et nous on peut partager plus de choses avec eux. Moi par exemple le match d'avant j'ai joué un peu avec eux parce que c'était trop déséquilibré, et c'est là aussi que je redécouvre mes jeunes d'une autre manière. Leur comportement, leur façon de jouer, le caractère, tout. Quand moi je suis sur le terrain, ça change beaucoup de choses en fait pour eux. Parce qu'ils s'identifient direct à moi et ils sont plus sur la réserve, ils se mettent plus de contraintes sur leur comportement à eux. Quand je suis sur la touche, je leur crie dessus, là je suis vraiment à côté d'eux, donc ça change un peu leur manière de jouer. Après c'est mon avis. Hein, c'est... Mais ouais, je trouve qu'ils sont plus concentrés, on va dire. Toutes les dérives qu'on peut voir quand ils sont fatigués, c'est-à-dire le langage, plus envie de courir ou se désintéresser de la chose, ça arrive beaucoup moins. Beaucoup moins ou moins rapidement, quoi. Moi, personnellement, de la satisfaction, j'ai toujours voulu faire ça pour aider la personne, parce que j'aime ça déjà, parce que je me fais plaisir et parce qu'à la fin de la journée je me sens pas fier, mais je me sens content et content de l'avoir fait et d'avoir pu leur apporter quelque chose. Ça c'est personnellement, ouais.
J'ai vu tout à l'heure qui a marqué un but et tout de suite il est venu voir son éducateur pour lui dire j'ai marqué un but. Ah, oui. Et même si c'était contre son camp, il était content.
Exactement. L'important c'est de se faire plaisir, et on le voit dans toutes les pratiques, on retrouve chez ce public une satisfaction qui est décuplée au moment de marquer le point ou de mettre un but par exemple. C'est extraordinaire et c'est encore plus plaisant quand on voit le degré de satisfaction du jeune en fait. Par exemple aujourd'hui on n'a pas beaucoup gagné, même rien, et si on se retourne on voit qu'il n'y en a pas un qui a pas le sourire là. C'est génial quoi, c'est génial. Et je pense que si je me renseigne sur le score pendant qu'on était en train de parler, on doit perdre 3 ou 4-0, mais tout le monde rigole. Donc des fois c'est énervant pour moi, mais c'est bien pour eux et c'est gratifiant quoi. C'est un super état d'esprit qu'ils ont.
Il y a eu combien?
2-1. J'ai heureusement l'eau.
Les bleus, les bleus. Allez, vous asseyez.
Allez, les bleus.
Hein? Mais c'est bien, on a dit des buts.
Allez, asseyez-vous, asseyez-vous. Il s'est passé quoi sur ce match?
Voilà, on a joué ensemble. J'ai marqué.
Déjà, ça veut dire qu'on va pas. Déjà, t'as marqué, c'est pas mal. Vous avez joué ensemble?
Il a un peu de
défense. Un peu, beaucoup de défense, ouais.
Tu prends le sac ?
Jean-Louis Lafleur, je suis le président du comité de l'Indosport adapté depuis 2011.
On est en plein Coupe du Monde féminine de football. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la place des filles, justement ?
Oui, donc les filles, elles arrivent de plus en plus dans le football en sport adapté, chose qui est une très bonne nouvelle. Et on a en plus une fille dans le département qui a apparemment beaucoup de talent. Donc c'est une très bonne chose, hein. Et puis ça mène un autre état d'esprit en plus. C'est mixte, donc c'est très très bien. Puis les jeunes qu'on a là, ils sont pas dans le dénigrement homme-femme. Ils sont loin de tout ça. Avant tout, ils jouent. Ils sont heureux, donc c'est leur priorité, quoi. Donc tout va bien.
Jean-François Jeannet, le président du district de l'Inde Football. Le sport adapté et le district de l'Inde collaboraient avant mon arrivée à la présidence, donc depuis 2003, donc c'était tout à fait logique que je renouvelle la convention, chose qu'on a faite en 2013, et qu'on essaie d'intensifier encore plus ce développement qui est me semble tout à fait logique en faveur des jeunes, des centres de sport adaptés. Moi, ce qui me marque, c'est la gentillesse de tous ces jeunes. J'en ai arbitré quelques-uns ce matin de matchs et ils sont vraiment faciles à diriger. Il n'y a pas de contestation, ils jouent à leur manière, mais quelque part, c'est très beau comme football. C'est ce que je disais aux élus, ça me change un peu du football traditionnel où on a peu plus de difficultés au niveau des jeunes et des adultes. Je pense que s'ils pouvaient vivre ces journées-là, ça serait vraiment très 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 bien. Je reste persuadé que lorsqu'on est le samedi dans le championnat traditionnel, on oublie ces belles choses de simplicité, de convivialité. Et puis quelque part, on est là avant tout en tant qu'amateur bénévole pour se faire plaisir. Les jeunes, je constate que parfois ils se chipotent un petit peu parce qu'il y en a un qui a perdu le ballon, mais c'est pas très grave. Ils assimilent bien les règles. Maintenant, on a vu une progression au fur et à mesure des rencontres et quelque part, on sent tout de même une solidarité derrière eux, naturelle ou pas, je sais pas. Je suis pas avec eux au niveau des centres, mais tous ceux qui les entourent nous disent que vraiment il y a de l'épanouissement et eux, si eux le constatent, c'est déjà gagné.
Le foot et la pétanque sont les deux sports les plus pratiqués au comité de sport adapté de l'Ain. Une centaine de licenciés sont tournés vers le football. Jean-Louis Lafleur, président du comité de sport adapté de l'Ain, s'appuie sur une équipe solide de 3 salariés. Le 3e poste a été ouvert cette année. Le président aimerait avoir plus de moyens pour multiplier les actions vers ceux qui sont le plus éloignés de la pratique.
On parle beaucoup d'handicap, c'est bien d'en parler, mais nous, sur le terrain, heureusement qu'on puisse s'appuyer sur certaines personnes, comme le district. Donc aujourd'hui, ils récompensent tous ceux qui ont tout géré ça avec le FBPP 01. La restauration, ceux qui y gèrent. Autrement, on n'aurait pas les moyens de faire tant d'actions. Donc on compte beaucoup sur, comme là, ou quand on est avec d'autres comités, comme le tennis et tout, donc la pétanque. Donc on compte sur les comités pour qu'ils fassent, qu'ils nous aident en partie. Donc c'est pas toujours évident.
C'est plus au niveau local, vous attendriez des choses au niveau national qui soient prises plus haut, au niveau du ministère des Sports par exemple?
Comme j'ai dit, le handicap, on en parle beaucoup. Et ce qui m'agace un peu, c'est qu'on en parle beaucoup, mais c'est comme l'écologie, c'est deux trucs qu'on parle beaucoup, mais qu'on ne fait pas grand-chose en fin de compte. On fait, c'est sûr, on fait, mais il y a beaucoup à faire. Et nous, on se bagarre pour intervenir dans différents établissements. Donc cette année, on a réussi à créer un 3e poste, mais c'est un très très long travail et c'est des choix certaines fois qui peuvent nous coûter très cher. Donc on essaye d'avancer tout en... Il faut qu'on pérennise aussi les postes. Donc le département nous aide, la DPI nous aide, mais on a besoin de... Parce qu'il y a tellement de besoins. Il y a de besoins, il y a plein d'endroits qu'on aimerait aller, mais potentiellement, on n'a pas les moyens encore de faire. J'aimerais bien qu'on avance plus vite, mais le handicap, c'est... Pour les valides, une action, certaines fois, ça prend du temps. Alors pour le handicap, ça nous prend encore beaucoup plus de temps. Donc il faut qu'on soit patient. Voilà, c'est... On a pris l'habitude, donc maintenant, on s'adapte, quoi.
Jean-Louis Lafleur, président du comité de sport adapté de l'Ain. Pour en savoir plus sur le comité, il y a leur site sportadapté01.com, sans oublier celui du district de l'Ain de football, 1.ffr.fr.
Radio B.
Le quartier des Vennes en fête. Rendez-vous pour deux événements le vendredi 28 juin, la fête de l'école et la traditionnelle fête de la Saint-Jean. Cette dernière est organisée par le centre social et toute une équipe de bénévoles. Cette année, nouveauté, un groupe musical et un groupe de breakdance participent aux festivités. Des groupes composés pour la plupart de jeunes du quartier. Interview de Dominique Chapelle, reporter pour Radio B.
Alien. Nothing can stop me, I'm all the way up.
Mon nom c'est Lil Rio et le nom de notre groupe c'est les Fun Kids.
Donc moi c'est Meji,
Moi, c'est Mickaël.
Comment ça se crée un groupe comme ça ?
Au départ, moi, je m'entraînais tout seul dans mon coin. Et au final, je me suis dit que être à plusieurs, ça doit être plus marrant, on progresse plus vite. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas créer une équipe et s'entraîner ensemble.
Donc toi, tu les as rejoints longtemps après ?
Dil Rio avait déjà plusieurs groupes avant, qui se sont tous arrêtés au fur et à mesure. Et en fait, un jour, donc, je me suis inscrit à la MJC. On s'est rencontrés, on a parlé et on a décidé de refaire un groupe pour s'entraîner, progresser. Et c'est comme ça que c'est parti, en fait.
Et toi ?
Moi, en fait, j'ai rejoint le groupe récemment. En fait, ils avaient déjà le groupe depuis quelques années. Moi, je m'entraînais à la MJC, puis ils m'ont dit « Viens ». Du coup, je suis allé, j'ai fait quelques séances et tout. Puis du coup, je me suis bien intégré. Et puis voilà, du coup, maintenant, je fais partie du groupe, quoi.
Et l'activité du groupe, principalement, c'est quoi ?
On pratique la danse hip-hop, breakdance.
Voilà, c'est quoi breakdance ?
Breakdance, c'est, on va dire, une discipline sportive maintenant, aujourd'hui. Assez acrobatique, technique et aérien.
Faut avoir la santé, alors.
C'est très physique.
Il y a des groupes sur lesquels vous dansez plus particulièrement que d'autres ? Ou des musiques qui vous donnent plus envie de danser ou de créer un spectacle de danse ?
Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est dans l'exotisme. Après, moi, je me suis rapproché du break grâce à la capoeira. Mais après, je danse sur tout, quoi. Après, les autres, je pense que c'est pareil.
Moi, je suis capable de danser sur tout. Et personnellement, j'ai commencé le break parce que mon grand frère a commencé avant moi. Donc moi, je voulais faire comme lui. Petit frère admiratif, du coup, voilà.
Il doit être content, alors.
Ouais, il est fier.
Comment c'est considéré dans le quartier, ce groupe ou cette activité plus particulièrement ?
Pour l'instant, on n'est pas connu, mais... Après, on essaye de faire beaucoup de spectacles, de compétitions, des battles. Là, on fait pas mal de championnats, notamment le BBF, le B-Boy France. C'est les qualifications Rhône-Alpes qui nous permet de nous qualifier pour la grande finale, qui réunit tous les meilleurs danseurs de France.
Et vous vous êtes déjà produit où ?
On s'est produit à la MJC, dans les fêtes de quartier de la ville, à la Rissouz-Auvenne. On a fait des spectacles au théâtre. Et après, c'est surtout sur des scènes en extérieur, après dans des compétitions, comme il a dit, des battles.
Vous arrivez à concilier l'activité de breakdance avec les activités scolaires ?
Du coup, à la fin des cours, on prend 1h30, 2h par jour, on s'entraîne après 4 ou 5 fois par semaine.
Pourquoi venir à la fête de la Saint-Jean au Venn ?
On s'entraînait à faire beaucoup de chorégraphies, de freestyle, et on cherchait des endroits où on pourrait montrer un peu ce qu'on sait faire. Et au final, Medine nous a dit qu'au Venn, il y avait des fêtes de quartier. Donc du coup, on pouvait éventuellement faire des représentations de danse. Et du coup, on est parti avec ce projet-là.
Ça peut donner des idées aux jeunes du quartier ?
Après, si ça peut ouvrir les gens à de nouvelles choses, tant mieux. Mais à la base, en fait, c'est surtout que moi, j'ai rencontré l'animateur du quartier, Olivier. Et c'est lui qui m'a parlé de ça. On cherchait des spectacles. Je lui avais demandé si on pouvait faire une apparition à la fête du quartier, vu que je suis d'ici. Il m'a dit oui, donc on s'est lancé là-dedans et ça plaît pas mal vu que c'est un art de rue, ça parle aux jeunes. Et ça, notamment les plus petits, ça, j'en connais certains, ça les motive à essayer d'apprendre, donc c'est cool.
Comment elles sont choisies les musiques pour faire le breakdance ?
Les musiques, elles sont choisies par rapport au tempo et par rapport au son, quoi. Il y a la new school, c'est un peu les musiques de maintenant et tout, et c'est plus rapide, le tempo est plus rapide. Et puis il y a l'old school, un peu à l'ancienne. Les sons sont plus rythmés et plus lents. Et du coup, on s'adapte à la musique, en fait. Tout le break, en fait, c'est sur la musique. Si le tempo est lent, on va faire une danse un peu plus lente.
Vous les choisissez entre vous ou il y a quelqu'un plus particulièrement qui choisit une musique et pas qui l'impose, mais qui la décide pour tout le monde ?
Non, on choisit ensemble. Même si je suis, entre guillemets, le meneur de groupe, après, je choisis avec ceux qui font partie de mon équipe. On voit, on propose et ensuite on voit quels sons on met. Après, on a surtout différents styles musicaux, chacun. Il y en a qui préfèrent le rap, d'autres le jazz. Donc, ensuite, on voit ensemble et ensuite on choisit au final laquelle mettre de musique.
On ne peut pas faire du hip-hop sur de la musique classique ?
On peut. En fait, on arrive à s'adapter. On est un groupe, on arrive beaucoup à s'adapter à chaque type de musique. Après, par exemple, on a déjà fait des spectacles en contemporain aussi. Après, la difficulté qu'on a dans ce groupe, c'est surtout que, par exemple, Dil Rio, lui, il est beaucoup à l'ancienne. Il aime bien les anciens sons, il a un style de break assez old school. Alors que moi, par exemple, je suis à l'opposé. Je suis dans les sons d'aujourd'hui, style d'aujourd'hui. Du coup, on essaie d'ajuster et de se mettre d'accord sur ça.
Vous vous entraînez où ?
On s'entraîne un peu dehors, on essaie de trouver des endroits, on a pas encore de salle fixe pour s'entraîner, du coup on s'entraîne un peu dans la rue quoi.
Bon, ben, le message est passé, s'il y a des responsables qui écoutent, peut-être qu'ils vous fourniront une salle pour vous entraîner. Et le parcours scolaire dans tout ça, ça donne quoi? Qu'est-ce que tu fais toi?
J'ai passé mon bac S.
Moi je travaille en intérim.
Et toi?
Moi j'ai eu mon bac STMG l'année dernière, cette année j'ai pas repris d'études. Et l'année prochaine, je pars en BTS, gestion petite moyenne entreprise, pendant 2 ans.
Donc on peut penser qu'à la fin de l'année, vous allez prendre des horizons différents, des parcours différents. Ça va modifier vos rencontres habituelles. Le groupe va éclater ou il va continuer?
Le groupe, il va continuer, toujours. Après, même si on part chacun dans des horizons différentes, on sera toujours là pour se conseiller l'un envers les autres. Et puis voilà. En fait, on avance ensemble. C'est même s'il y en a un à Paris, l'autre à Marseille, on sera toujours en contact et dès qu'on pourra se voir, on se verra en fait.
Et toi?
En fait, tant qu'on peut s'entraîner, même chacun de notre côté et s'améliorer, après on peut se retrouver, peut trouver du temps pour se voir ou se parler, pour tout mettre en commun.
Le groupe le précise, il n'y a pas d'âge pour commencer la breakdance. La breakdance, peut-être pour la première fois aux Jeux Olympiques, donc à Paris en 2024. Mais on ne le saura pas avant décembre 2020, date à laquelle le CIO, le Comité International Olympique, validera ou pas cette nouvelle discipline. Mehdi fait partie d'un groupe de l'EMA, l'école de musique et des arts à Bourg-en-Bresse. Habitué de la fête de la Saint-Jean aux Vennes depuis environ 6 ans, il a toujours voulu le faire avec un groupe. Cette année, l'opportunité s'est présentée.
On a des ateliers au sein de l'école et les professeurs choisissent des élèves qui s'inscrivent aux ateliers. Et puis avec le groupe, on s'entendait assez bien dès les premières répétitions, donc ça s'est fait comme ça et on a essayé de continuer.
Il comprend combien de membres ce groupe ?
On est 7, 6-7, ouais.
Ah, 6-7, ça commence à faire un petit peu. Chacun joue d'un instrument différent ?
Y a 2 guitares électriques, un bassiste, une batterie, 2 pianistes et puis moi, le chanteur.
Comment sont choisies les musiques ?
On se regroupe ensemble et on essaie de choisir, on essaie de mélanger un peu tous les genres pour essayer de convenir à chacun. Et puis, voilà.
Il y a des genres préférés ou des thèmes préférés ?
Rock, pop, R&B, ça dépend, ouais.
Comment c'est perçu dans l'entourage, dans la famille, dans le quartier, appartenir à un groupe, être jeune et appartenir à un groupe?
Ça, c'est valorisant un peu. Ils se disent, c'est bien, c'est un jeune qui essaye de faire ce qu'il aime, puis surtout avec des personnes avec qui il s'entend bien. Moi, dans ma famille, ils sont tous fans de ce que je fais. Bon, après, c'est normal, hein, surtout la maman et puis le papa aussi. Mais ils aiment bien. Ouais.
Les sources d'inspiration, ça vient d'où?
Tout ce qui est Bruno Mars, Michael Jackson... Dans ma famille, tout le monde écoutait Michael Jackson, puis j'ai grandi dessus aussi, donc voilà.
S'il y avait un conseil à donner à des jeunes plus jeunes que toi, bien que tu as quel âge au fait ?
17 ans.
On va en enlever 7, alors pour des jeunes de 10 ans qui voudraient se lancer là-dedans, ouais. Qu'est-ce que tu leur dirais ?
Il faut se lancer, hein. Faut pas avoir peur, surtout sur scène, faut se lancer. Moi, je sais que j'ai commencé 10 ans aussi, 10 ans, et moi, j'y suis allé, j'ai pas lâché, quoi.
Est-ce que tu as envie d'aller plus loin ?
Pour l'instant, j'essaye de juste profiter un peu. Aller plus loin, souvent mes proches, mes amis, ils me le disent, ouais, tu devrais tenter plus. Par exemple, The Voice, on me dit The Voice, ou je sais pas quoi, mais ça me tente pas encore.
Ouais. Et pour concilier tout ça avec les cours, tu es en quelle classe? Qu'est-ce que tu suis comme études?
Moi, je suis en première économique et sociale au lycée Carrière.
C'est dur à concilier musique, activité artistique et les cours que tu prends?
Non, ça va. C'est assez, j'aime bien les deux, du coup je m'amuse dans les deux, enfin j'essaie de m'amuser à l'école, hein, pas trop quand même, mais ça va, c'est assez facile.
On va se positionner un petit peu dans l'avenir, s'il y avait un choix à faire plus tard, est-ce que tu as déjà une idée à faire un choix entre le domaine artistique et le domaine scolaire ou choisir une profession plus classique?
Le domaine scolaire, c'est sûr, parce que le domaine artistique c'est jamais sûr de ce qu'on fait, un jour on pourrait... devenir peut-être un artiste reconnu, puis après retomber dans l'oubli et plus rien avoir, alors que les cours, c'est une sécurité, en fait.
Tu voudrais t'orienter vers quelle profession ?
Pour l'instant, dans les langues, tout ce qui est associé aux langues, je voudrais bien, ça m'intéresse beaucoup. Et puis, si le domaine artistique s'ouvre à moi, j'irai. Hein.
Comme chaque année, la fête de la Saint-Jean au quartier des Vennes se terminera par un feu autour duquel se réunira le public. Le jour J, plusieurs stands seront installés. Il y aura aussi plusieurs animations et vous y trouverez de quoi manger. Toutes les infos sur la page Facebook Centre Social des Vennes. Un reportage de Dominique Chapelle, reporter pour Radio B.
Radio B, Radio B.
Quelques infos en bref. Avis à ceux qui recherchent un emploi, le CIDFF de l'Ain, le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles, propose un atelier pour valoriser son image et ses atouts. Ça se passe ce jeudi 20 juin de 9h à 11h au Centre socioculturel de la Ressouze, 12 place Alexandre Dumas. Prendre soin des personnes âgées de 65 ans et plus et des adultes en situation de handicap. La ville de Bourg lance comme chaque année un dispositif d'alerte et de veille si le préfet ou le ministère de la Santé déclenche le plan Canicule. Si vous ou un de vos proches redoute les fortes chaleurs, une inscription sur un registre est possible. Si le plan canicule est déclenché en fonction des situations individuelles et de la météo, le pôle prévention senior appellera périodiquement les personnes inscrites. Pour vous inscrire ou signaler une personne, appelez le 04 74 42 45 70. Autre numéro, celui de la plateforme nationale Canicule Info Service au 0800 06 66 66. Appel gratuit depuis un fixe. En cas de problème important, appelez votre médecin traitant ou le 15. Ramène ta chaise, c'est le nom d'un projet pour les habitants du quartier des Lilas. Résultat, des lectures d'histoire, des ateliers de sensibilisation aux arts du cirque, des ateliers théâtre ou encore des ateliers de customisation des chaises de la future médiathèque Camus. La restitution, c'est ce vendredi 21 juin de 14h à 17h dans la médiathèque Camus. Vous pourrez la découvrir en avant-première au programme représentation de théâtre offerte par les élèves de l'école des Lilas, visite du bâtiment et un goûter sera offert à 15h15. Dévoiler le voile dans l'art, l'exposition de peintures, photos ou encore de sculptures est à découvrir jusqu'au 29 septembre au monastère royal de Broue. Une centaine d'œuvres sont présentées. L'entrée est à 9 euros gratuite pour les moins de 26 ans. Voiler, dévoiler, ES ou EES, le voile accessoire porté par les femmes et les hommes. Le voile de la masculinité, c'est justement le thème d'une conférence programmée le mardi 25 juin à 18h au monastère. L'entrée est gratuite. Pour la prochaine sur le voile en Orient, il faudra attendre la rentrée. D'autres rendez-vous sont prévus autour de l'exposition pour les grands et les petits. Retrouvez tout le programme sur le site du monastère, monastère-2-brou.fr. L'exposition Voilée, dévoilée, on en parle lundi prochain, le 24, dans votre magazine à 17h15 sur le 90FM. Une dernière info, ce vendredi, c'est l'été et la fête de la musique. Pour savoir ce qui vous attend dans les rues de Bourg, comment circuler en voiture et comment se garer, c'est sur bourg-en-bresse.fr. À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci encore à mes invités, à Dominique Chapelle, reporter pour Radio B, et merci à vous pour votre écoute. Retrouvez À vous les Burgiens tous les lundis à 17h15, rediffusion mercredi à 13h, samedi et dimanche à 8h, et à tout moment sur notre site radio-b.fr.